Et j'aimerais vous inviter à... Oh, je vais vous parler de choses un peu terribles ce matin. J'ai donné un titre à cette prédication, Rides, arthrose et choses semblables. Non, ça ne veut rien dire à personne, je sais. C'est hors propos pour tous, mais on va quand même lire la parole de Dieu dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4. Dès le verset 7, 2 Corinthiens 4, depuis le verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonné, abattu, mais non perdu. Nous portons toujours avec nous et dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous, mais la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi, selon qu'il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, c'est pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Alors nous pourrions lire jusqu'à la fin du chapitre, jusqu'au verset 10 du chapitre 5, mais ça c'est le devoir que je vous assigne à domicile par ce dimanche pluvieux. Mais même quand il fait si beau, vous pouvez lire la Bible, hein, c'est permis. Voilà. Alors, il faut bien se rendre à l'évidence, la Bible n'annonce pas que le corps des chrétiens, grâce au sacrifice de Jésus, est devenu impérissable. Non. Et dans cette dispensation qui est la nôtre, notre corps se détruit, et l'apôtre Paul le dit, notre corps se détruit. Hein, dans le verset 16, on vient de le lire. Et ceci, malgré le fait que nous croyons que le Seigneur a porté nos maladies, comme nous l'avons chanté et comme Ésaïe 53 l'annonce. Notre vie et notre santé demeurent aussi fragiles qu'un vase de terre. Il suffit de voir dans quel état nous sommes lorsque nous avons mal à la tête. Nous avons l'impression que le monde s'arrête de tourner et on n'a qu'une envie, c'est d'être soulagé. Et même si nous sommes hyper spirituels, cependant, nous sommes forcés de constater que nous portons ce trésor dans ces vases de terre, dans cette argile que nous sommes. Et au quotidien, on le vit et la révélation biblique nous confirme cela. Alors, c'est frappant de constater que combien le refus d'admettre que nous mourrons tous un jour et que nous mourrons tous un jour un peu, chaque jour un peu plus, on refuse d'admettre ça. On essaie de ne pas y penser et pourtant, c'est la vérité. Cette acceptation de l'évidence est difficile. Et cette non-acceptation, ce refoulement, c'est du reste abondamment exploité. Hein. Je qualifierais ça le culte du corps. Vous regardez la télé de temps en temps, comptez le nombre de publicités qui exaltent votre corps, qui vous proposent des suggestions, des conférences, des livres, des crèmes, et même des chansons à la gloire du corps, on est inondé par cette façon de penser. Le corps, mon corps. Et que de régimes, que de produits internes et externes, de moyens de toutes sortes, ne vantons pas, pour prolonger nos vies et embellir l'emballage de ce que nous sommes. On vous propose toutes sortes de crèmes pour des ravalements de façade, n'est-ce pas, si je peux m'exprimer ainsi, hein, et que d'instruments de torture, je plains de tout mon cœur ceux qui s'adonnent à un fitness à haute dose parce qu'ils souffrent beaucoup, ils font beaucoup souffrir leur corps pour non pas l'être, mais le paraître. Alors, on va peut-être à l'évidence, c'est bien. La parole de Dieu est l'expérience. Continue à affirmer, malgré tout ce qu'on peut entendre et recevoir comme stimuli, que notre corps se détruit. Je suis entré dans ma 69e année, et ben je peux vous dire que les trois étages que je monte sans ascenseur me confirment que mon corps se détruit un petit peu plus chaque jour. Étrangement et par une aberration étonnante, bien des chrétiens refusent, au nom de leur foi, d'admettre profondément le fait de la lente destruction de notre corps. Et dans certains mouvements évangéliques, si vous êtes malade, c'est que vous n'avez pas la foi ou que vous avez péché, ou que vous n'avez pas appliqué à votre vie les promesses de Dieu. Non, ça ne vous dit rien, ça. Hein? Mais malheureusement, dans certains mouvements, on ne pourra pas admettre qu'on vieillit, puis qu'un jour on devra disparaître, je ne sais pas. Alors, dans cette conception, on peut se construire tout un système étayé de tous les versets bibliques qu'on pourra trouver, qui vont établir la bonne santé comme une marque d'approbation de Dieu, une preuve de bénédiction. Puis la maladie, comme étant l'évidence, comme je l'ai dit, du péché personnel ou de l'incrédulité, ou alors pire, du châtiment de Dieu. La vie sainte amènerait la santé. La foi la conserverait. Et la bienveillance divine l'assurerait dans cette conception des choses. Alors on est d'accord, il y a des comportements de vie qui amènent la déchéance de nos corps. Hein, si vous buvez trop et que vous fumez comme un pompier, je ne sais pas pourquoi on dit comme un pompier, mais en tout cas, si vous estimez que le Seigneur vous a créé pour être une cheminée, c'est clair que vous portez les conséquences activées de cette dégénérescence. On est d'accord. Mais ce n'est pas parce qu'on a la foi en un Dieu qui peut tout que forcément, ipso facto, nous allons être en bonne santé. Ce n'est pas ça. Parce que si on pensait ça, alors il n'y aurait pas de place pour le prophète Élisée qui, d'après le texte, mourut de la maladie dont il était atteint. Et puis, il n'y aurait pas de place pour Paul, l'apôtre, qui souffrait d'une écharde dans la chair et qui a supplié d'être délivré. Puis, le Seigneur a dit, ma grâce te suffit, c'est très bien comme ça. Alors, c'est une évidence. Nous portons tous, d'une manière latente, la mort dans notre corps, consécutif à la chute de l'homme. Évidemment, les manifestations de la chose ne se produisent pas pour tous de la même manière. On est d'accord. Constatez-le vous-même. La fatigue tenace, souvent plus éprouvante que la douleur, la maladie, le vieillissement décrit si précisément dans Ecclésiaste, vous savez, les mains qui se mettent à trembler, les jambes qui flageolent, les dents qui nous quittent, la vue et l'ouïe qui s'émoussent, le sommeil qui fuit, les cheveux qui blanchissent, la digestion difficile, toutes ces choses que vous lisez dans Ecclésiaste au chapitre 12, ce sont des signes d'une réalité face à laquelle le chrétien ne doit pas s'illusionner notre corps se détruit. Hein, je me souviens d'avoir entendu mon grand-père dire « Jeunesse qui veille et vieillesse qui dort sont tous les deux près de la mort. » Alors, si vous, en tant qu'âgé, le sommeil vous fuit un peu, c'est plutôt bon signe, n'est-ce pas? Revenons à notre réflexion. Pour celui qui n'a pas entretenu une vivante espérance, le moment où il réalise cette fatalité, ça peut être le temps de dures et secrètes épreuves. Si nous n'admettons pas d'emblée que notre vie est un passage. Je me souviens, alors que nous étions en train de prier pour une chère amie qui est décédée un peu avant l'heure, je dirais, nous étions dans une église américaine et puis le prédicateur disait « Mais dites-moi, notre vie ultime, est-ce qu'elle est ici-bas ou vers le Seigneur ?» Alors, si d'aventure votre corps devient malade et que après prière, vous ne guérissez pas, est-ce que ça ne veut pas dire que le Seigneur vient vous prendre pour la vie ultime et meilleure? Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites, alors pourquoi vous chantez avec extase, voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, oh quelle suprême grâce, quelle félicité. Il disait, ce prédicateur, ah, si nous ne pensons pas comme ça, il faut arrêter de chanter ce genre de choses. Et il avait raison. Ça peut être dur de réaliser ça. Qu'est-ce qui reste à l'homme actif qui n'a trouvé ses satisfactions que dans son travail ou dans son sport favori ou dans son plat préféré? Quand ces choses lui sont enlevées, qu'est-ce qui lui reste? Hein? Il est désemparé. Le fondement de sa vie se dérobe. Et un tel homme s'en va encore plus vite vers sa fin, car désespéré. Alors, quelle que soit notre foi ou notre confiance en la puissance de Dieu, il ne faut pas nous étonner que nous ayons à constater le dépérissement de notre corps par les ennuis, les maladies, les infirmités qui l'accablent petit à petit. Et la foi ne nous autorise jamais à tricher avec la réalité, mais elle nous pousse, la foi vraie, à affronter cette réalité sereinement. On va pouvoir changer de petite image, là. Alors, posons la question, est-ce que nous n'avons que cette triste réalité à affronter? Bon, ben voilà, je suis chrétien, mais je m'en vais vers la fin. Ah, on ne va pas être fataliste, bien sûr que non. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle d'un grand salut et du rétablissement futur de toute chose, où la mort va être englouti dans la vie, et Dieu se plaît à nous le rappeler par sa parole, mais aussi dans des actions concrètes aujourd'hui. C'est pour ça que nous prions pour les malades. Dieu désire démontrer sa puissance et nous encourager et stimuler notre espérance en nous donnant des cadeaux qui annoncent un royaume futur qui viendra dans sa plénitude. C'est pour ça que nous prions pour les malades. Parce que quand un malade guérit, il annonce la venue en plénitude d'un royaume où il n'y aura plus de mort, plus de maladie, plus de ceci, plus de cela, etc. Et c'est pour ça que l'Église prie. Vous savez, on s'émerveille au premier printemps des petites fleurs qui viennent. Le printemps arrive, puis après il y a à nouveau un coup de gel, puis elles meurent. Mais elles annoncent qu'il vient le meilleur. Ces petites fleurs du printemps. Eh bien, les cadeaux que Dieu fait à son Église de guérison, de délivrance, c'est l'avant-goût, la portion de dégustation de l'éternité, si je peux m'exprimer comme ça. Vous comprenez? C'est pour ça que j'encourage, même si je sais qu'un jour, ce que vous voyez là sera réduit en poussière. Eh bien, je n'ai pas dit en cendres, hein, mais en poussière. même si je le sais, cependant, je vais prier pour les malades. Je prierai pour ma guérison. Et j'ai vécu dans mon corps, à plusieurs reprises des actes de guérison de la main percée de Jésus. Et ça me dit que, malgré le fait que je me détruis petit à petit tous les jours, cependant, il y a une réalité future dans laquelle tout cela aura disparu. Et dans la réalité du dépérissement inscrit dans nos gènes, accordons-nous des signes de la victoire de Jésus. Osons prier. Et si nos yeux ne doivent pas refuser d'admettre la réalité de notre état d'être mortel, accentué par l'air du temps, mais cependant, personne ne peut nous empêcher de considérer le royaume de Dieu qui vient, car la foi croit en ce qui n'est pas encore visible. On va changer d'image. Notre corps, ce n'est pas nous. Bon, mais j'aimerais rappeler, l'année passée, j'ai accompagné l'enveloppe terrestre de mon père au cimetière de Nyon. L'enveloppe terrestre de ma mère y repose depuis 2005. Mais j'aime rappeler que notre corps, ce n'est pas nous. Quand on y réfléchit bien, on peut comprendre que le corps n'existe pas dans un but indépendant, mais il existe pour l'âme. Le corps, c'est un véhiculaire, le corps. Le corps se nourrit, mais c'est pour continuer d'être l'enveloppe de l'âme. Et s'il dort, le corps, c'est pour mieux servir l'âme. S'il travaille, c'est pour que l'âme s'exprime. Et s'il se détruit, c'est encore pour l'âme, en vue de sa libération de la terre et de sa présence auprès du Seigneur, le corps. Je ne sais pas si j'ai ce texte, ça me fait penser à un texte, oui, non ? Suspense, voilà. C'est un texte d'un poète libanais chrétien, Khalil Gibran, qui a écrit au sujet de la mort. Je ne peux pas résister à l'envie de vous lire. Vous voudriez connaître le secret de la mort, mais comment le trouverez-vous, sinon en le cherchant dans le cœur de la vie ? Car qu'est-ce que mourir, sinon se tenir nu dans le vent et se fondre au soleil ? Et qu'est-ce que cesser de respirer, sinon libérer le souffle de ces marées inquiètes ? Pour qu'il puisse s'élever, se dilater et rechercher Dieu sans entrave. Car seulement, c'est seulement lorsque vous boirez à la rivière du silence que vous chanterez vraiment. Et quand vous aurez atteint le sommet de la montagne, vous commencerez enfin à monter. Et lorsque la terre réclamera vos membres, alors vous danserez vraiment. Et la mort, c'est pour que votre âme, vous, le vrai vous, puisse se libérer et rencontrer Dieu sans entrave. Alors, soignons nos corps, mais surtout notre âme. Habillons bien nos corps, vous êtes jolis ce matin, mais surtout que la grâce revête votre âme. Priez pour votre corps lorsque vous êtes malade, mais priez pour votre âme, car votre âme, c'est vous. L'enveloppe de votre corps, ne vous en préoccupez pas à l'excès pour elle-même. Et si tu comprends que tu appartiens à Jésus, tu sais que tu es complètement dans ses mains et il ne va pas permettre que ton vase d'argile se brise avant que tu n'aies accompli toute ta mission ici-bas au travers de ton corps. Alléluia. On change de petite image. La vie éternelle est autre. C'est bien dans le cadre fragile de la vie terrestre, s'épuisant tous les jours, que que triomphe une autre certitude, celle de votre vie éternelle. Et c'est ce qu'annonce l'Évangile pour qui a reçu le prince de la vie, Jésus son Sauveur. C'est par lui que nous apprenons à ne plus vivre repliés sur nous-mêmes dans le vain regret du passé ou dans la simple constatation du présent aussi. Si notre corps se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est ce que l'apôtre a écrit. Si notre corps se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Quand on comprend cela, c'est donc de première importance de fixer nos yeux, non sur ce qui se détruit, mais sur ce qui se prépare en secret en nous. Quand le corps devient de moins en moins un instrument pour communiquer avec la terre, il est surtout là pour celui qui demeure en Christ, l'enveloppe d'une âme qui se transforme mystérieusement sous l'action du Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu veut faire en nous pour nous préparer à le rencontrer. Notre corps se détruit, certes, mais notre âme se transforme. Et ma foi, elle est différente d'il y a 53 ans. Elle est à un autre niveau, elle est plus profonde, elle est moins sujette aux tremblements extérieurs, elle est plus fondée et plus solide. C'est l'intérieur qui prend le pas sur l'extérieur. Ce qui est éternel triomphe de ce qui est passager. L'être intérieur, le seul durable, se renouvelle de jour en jour. Et donc, quel est le secret de cette transformation qui prépare une manifestation triomphale qui vient bientôt pour chacun d'entre nous? Eh bien, je vais tenter de l'expliquer en vous lisant une fable d'Alexandre Westphal, théologien du début du XXe siècle. Il l'a écrite et je la trouve particulièrement... Vous aimez les fables? C'est rien à voir avec La Fontaine, hein, mais Westphal a écrit ça. Par un beau matin du mois de juin, je me trouvais au bord d'un étang quand je vis une nymphe de libellule, là voilà, de couleur jaunâtre, monter lentement le long d'une grosse pierre moussue dont le sommet sortait de l'eau tranquille. Elle était accompagnée par une autre nymphe, marbrée de taches grises. « Où vas-tu ? » disait celle-ci. « Nous allons arriver à la voûte bleue qui nous couvre et tu sais très bien qu'au-delà, on ne peut ni respirer ni vivre, au-delà, il n'y a rien. » Parole de nymphe grisâtre. « Je crois au contraire qu'au-delà, il y a quelque chose, qu'au-delà, il y a la vraie vie. Mon instinct me pousse vers une destinée inconnue, merveilleuse. Une voix me dit... « Monte plus haut !»« Quoi donc ?» répartit l'autre. « Tu crois que quelqu'un est revenu de ce monde-là pour en raconter des merveilles ? Notre monde, à nous, c'est la mare. Notre sort est lié au sien. Vois notre corps, nous sommes faits pour ramper, pour nager. »« Regarde, » dit la nymphe jaune, « sur mon corselet, ces deux poches gonflées. » « Il y a des ailes là-dedans. »« Des ailes ? Moi aussi j'ai deux plis dans le dos, mais je sens bien qu'ils sont vides. La nature nous les a donnés pour nous aider à surnager. C'est tout. »« Ah, tu ne parlerais pas ainsi, » répondit après un silence la nymphe jaune, « si tu étais venu avec moi t'exposer tous les jours aux rayons du soleil. Et c'est dans ces heures de lumière que j'ai senti mes ailes naître et frémir. Elles ont grandi, elles veulent se déployer. » Tout en causant, les deux nymphes étaient arrivées à fleur d'eau. La nymphe grise fit ce qu'elle pouvait pour retenir son amie, mais celle-ci, dans un effort suprême, franchit la nappe resplendissante et disparut. À peine eut-elle fait quelques pas dans l'air flamboyant que ses pattes s'arrêtèrent comme pétrifiées. Le globe de ses yeux s'obscurcit, tout son corps se raidit, elle étouffait, elle mourait. Un frisson déchira sa robe de nymphe et la lumière fit irruption sur tout son être. Les pochettes livrèrent passage à deux vapeurs d'arc-en-ciel, on peut changer, que la chaleur de l'air étendit, rendit ferme et vibrante. Ses pattes déliées sortirent de leur gaine rigide et la portèrent sans effort au-dessus de la dépouille qui l'avait retenue prisonnière et qui devenait son piédestal. Elle resta là un moment, éblouie, ravie, comme suspendue dans un monde enchanteur. Puis la brise passant, dans la fanfare de la vie, la libellule monta vers le soleil. On peut même mettre une autre. Pendant ce temps, la nymphe grise était redescendue dans l'ombre, méditant sur les superstitions de son amie et déplorant sa folle aventure. Elle regagna son coin d'obscurité, y vécut sans soleil son existence de nymphe. Vint l'heure où son élan vital fut épuisé. Elle sentit ses pattes devenir molles, s'écraser sous le poids de son corps. Elle chavira de sa branche pourrie dans un spasme qui fit fuir de terreur les larves d'alentour de tous les points de la vase qui déjà la recouvraient à moitié. Des insectes vinrent la dévorer, la dépecer, en disperser les membres inertes et les rendre aux éléments de la nature. Tout le secret de la première fut de répondre aux appels de la vie et de s'exposer chaque jour aux rayons du soleil. Toute la tragédie de l'autre fut d'être négligente. Alors, frères et sœurs, dites-moi que vous n'êtes pas négligents. Que vous n'êtes pas négligents en ce qui concerne votre piété, votre âme, votre avenir. Dites-moi que vous exposez vos âmes aux rayons de l'amour de grâce, de l'amour divin. Cet amour divin qui se manifeste dans la communion de Jésus, dans sa présence. Les hindouistes pratiquent des mantras qu'ils répètent 10 000 fois par jour dans le but de se vider complètement, vider leur esprit. Nous, nous invoquons le nom de Jésus dans le but de nous remplir de sa présence. Et c'est ce que je vous souhaite, frères et sœurs, que votre âme soit à ce point assujetti à la personne de Jésus, que vous sentez vos ailes gonflées dans votre dos, si je peux reprendre l'image de la nymphe tout à l'heure, que vous puissiez réaliser que quelque chose se prépare en vous d'extraordinaire et que cette vie-ci pâlit, alors que vous acheminez vers ce moment où votre âme sera dégagée de ce corps pour rencontrer la présence glorieuse du Seigneur. Alors qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, et prenez courage. Prenez courage, le Maître nous appelle. Et si nous constatons que notre corps se détruit, notre être nouveau et intérieur se transforme chaque jour en nous, et persévérez, frères et sœurs, à appliquer, à communier avec celui qui produit cette œuvre irréversible de grâce en vue de votre vie éternelle. Alors, la mort n'apparaît plus comme une chose épouvantable, mais comme un pas de porte qui nous conduit dans la réalité de la présence de celui qui est mort pour nous et qui nous appelle à la vie éternelle. Amen. Seigneur, quelle grâce c'est de réaliser que malgré les aléas de notre corps et de notre physique qui n'est pas destiné à être éternel, nous réalisons qu'il y a une autre réalité qui s'installe et qui grandit en nous et qui va nous amener juste dans la présence du divin, de notre Dieu. Nous serons accueillis par Jésus et nous nous réjouissons de le voir face à face. Seigneur, pardonne-nous nos doutes, pardonne-nous nos révoltes parfois. Aide-nous quand la souffrance frappe à notre porte. Donne-nous l'Esprit Saint qui nous aide dans notre faiblesse, afin que nous puissions fixer nos yeux au-delà de la réalité que ce corps nous impose. Seigneur, merci pour la vie éternelle. Elle a déjà commencé pour chacun d'entre nous. Alléluia. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur. Renouvelle leur courage, leur détermination à vivre ta présence au quotidien. Alléluia. Amen. Soyez bénis.